Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 37e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'autrice à l'honneur aujourd'hui est Martine Sombrin-Ténière. Enseignante retraitée, Martine Sombrin-Ténière est née à Périgueux en 1949 et y vit encore aujourd'hui. Elle partage son temps entre ses animaux et l'écriture de romans de vie, de nouvelles du quotidien et de récits animaliers. Elle a publié les romans « La maison aux deux visages »,« Le goût de la gentiane » et en 2026 « Quand Julia s'offre un voyage », ainsi que les recueils « Histoires à plumes, à poils et à piquants »,« Au hasard de l'annuaire » et « Délices de table et de lecture en Périgord et ailleurs ». Les textes que je vais vous lire aujourd'hui sont de courtes fables animalières, drôles et légères, extraites de histoires à plumes, à poils et à piquants. Bonne écoute. Opération dégoupillage. Dans un de nos villages, dès que la nuit tombait, sévissait une bande de sournois prédateurs. En fait, une famille de rouquins affamés. « Je n'en peux plus !» disait la femme, dont la volaille était la proie de ses noceurs. « Ne me reste qu'une oie, deux canards, trois lapins. Mais comment protéger mon petit poulailler de ces bêtes rusées qui font peur à mon chien ? Je m'en vais demander conseil à mon voisin. » Celui-ci prit sur lui de rassurer la dame. « Soyez sans crainte désormais, je me charge de tout, ne vous inquiétez plus, et je vais de ce pas voir quelques bons amis pour l'organisation d'une belle battue. Avec nos 100 cartouches, nous serons au moins 6, les plus fines gâchettes du canton réunies, et nous prendrons 3 chiens, même plus s'il le faut. Nous arriverons bien à vider le hameau de la vermine rousse qui l'a trop envahi. Donc rendez-vous fut pris pour un jour de printemps après un peu d'orage, et au bistrot du coin un tout petit passage. Le chien le plus vaillant trouva vite la piste à partir de la ferme où sévissaient les bêtes. Il conduisit les gars jusqu'à un appentis collé à la maison de gens juste endormis. C'était l'heure de la sieste, en plein après-midi. On excite les chiens, on les lance à l'assaut. Voilà les 6 fusils déjà prêts pour l'ouvrage. Le doigt sur la gâchette, la casquette en arrière. Un premier coup se tire et les renards jaillissent. S'ensuit la pétarade, les cartouches se vident. Le fermier d'à côté croit la guerre revenue. Se bouchant les oreilles, il s'écrie « C'est fichu !» Et ceux de la maison dont dépend l'appentis, se pensant agressés, appellent les pompiers, mais n'osent surtout pas sortir de leur logis. Un certain temps se passe. On entend comme un cri. Les chasseurs se regroupent. La fumée dissipée laisse voir de la chasse un tableau désolé. Les vieux, comme les jeunes, les 6 bestioles ont fui. On a pu les compter, mais pas un n'est touché. Les herbes sont foulées, les branches sont cassées, et l'on relève un chien, c'est lui qui a morflé. Les maîtres de ces lieux, une fois rassurés, osent enfin sortir, voulant en savoir plus. Mais sans un mot de trop, les tireurs, fort déçus, remballent leurs fusils et vont se consoler à l'auberge au hameau. Dans la proche forêt, les renards sont partis. Il reste donc une oie, 2 canards, 3 lapins. Ils sauront quoi trouver pour leur futur festin. Et le chien dans tout ça ? Allons, rassurez-vous, il n'était qu'étourdi. Une oreille est raflée par quelques plombs perdus. Mais croyez bien que lui, au moins, il a compris. On ne l'y prendra plus à chasser le goupil. Les 3 canards. À peine sorti de l'œuf, ces trois beaux canetons furent inséparables et, s'aimant d'amitié, découvrirent la vie d'un pas bien accordé. L'un devint demoiselle, les autres des garçons. Ils marchaient tous les trois, elle au milieu des deux, et dans la vieille ferme, ils vivaient bien heureux. Mais les enfants grandissent, ça arrive toujours. L'instinct fut réveillé dès le temps des amours. Comment, se disait l'un, évincer mon copain et garder pour moi seul cette jolie femelle? J'aime bien mon amie, mais tout a une fin, et je la veux pour moi, elle est tellement belle. L'autre, ne sachant pas les pensées du premier, heureux du temps qui passe, continue à vaquer. S'en remet au hasard, ne fait pas de projet. Nos trois canards s'en vont d'un pas bien décidé. Dans la plus proche mare, ils veulent se baigner et doivent contourner un haut mur grillagé. L'amoureux, tout d'un coup, se fait soudain frimeur, veut convaincre la canne que c'est lui le meilleur. Pour prendre son élan, il se met à courir et s'envole bien haut, pensant les éblouir, en franchissant d'un coup l'obstacle droit devant. Hélas, il n'a pas su conserver son allant, et il touche la barre, restant ainsi coincé, les pattes embrouillées dans le haut du filet, puis retombe piteux au pied de ce muret. Mais, fort heureusement, c'était du bon côté. Les deux autres, impassibles, contourne le barrage. Elle à gauche, lui à droite, en suivant le sillage, et passent à la hauteur du pauvre accidenté. Puis d'un seul mouvement, comme s'ils s'accordaient, tournent chacun la tête de l'autre côté, pour montrer leur mépris envers le sot frimeur qui comprend aussitôt le prix de son erreur. Tout penaud et contrit, il veut les rattraper et boite en cancanant vers ses anciens alliés. Mais la belle a choisi celui qui fut plus sage. Désormais, elle accepte ses avances d'usage, et l'autre, tout mari, ne pourra qu'assister aux amours printanières de sa canne adorée. Caroline est de retour. Sauf qui peut un beau matin. Alerte rouge dans le jardin. Tous les félins sont alarmés. Une motte de terre a bougé. Par trois fois, elle s'est soulevée. Puis rien ne va plus. Le sol se met à trembler. « Tu as vu ce que j'ai vu ?» demande l'un des greffiers à son voisin embarrassé. « J'ai bien vu. Je vois encore, » répond le matou tigré. « Serait-ce cette pécore de retour pour nous narguer ?»« Hélas, déclare le plus âgé, je sais bien ce qu'il va se passer. »« Non qu'ils soient effarouchés, la seule chose à redouter, perdre leur tranquillité. »« Et ils sont très agacés, fini leur règne au potager. »« Caroline est de retour. » Après de longs mois d'hibernation, voici ceux de sa domination. Les chats n'ont pas d'autre recours que de signer un pacte d'union. Leur fierté prend le dessus. « Attention à ce qu'elle fait !» marmonne le blanc Artus. « Elle ne va pas recommencer à me mordre la queue comme l'été passé. Pour ma part, je ne veux pas qu'elle me suive pas à pas quand je guette les souris. Elle pousse des petits cris qui font fuir la proie choisie que je manque alors, pardi, renchérit le vieux Finot qui la regarde de haut. Les chats du potager surveillent l'ennemi qui, enfin sorti de terre, s'avance à pas lents. Mais ma parole, on dirait bien qu'elle sourit. Elle a même un air très content. Heureuse de tous les retrouver, elle accourt à petits pas comptés, agitant sa tête chenue, s'exclamant « Je suis revenue !» Les chats n'en croient pas leurs oreilles, n'ayant ouï jamais rien de pareil. Alors, Caroline viendrait donc en amie? Bon prince, il décide que oui, et s'empresse autour d'elle, finissant même par la trouver belle. Pour le bonheur de la petite ninja, dont la robe couleur d'écaille dorée ressemble à la carapace de la nouvelle arrivée. Elle en fait des cabrioles de joie. Encore une nouvelle saison à se partager le petit potager et les alentours de la maison, cette fois sous le signe de l'amitié. Le cessez-le-feu a été signé. Mais savez-vous le mot de la fin? Caroline, c'est en fait un carolin. Les deux chats du moulin. Au moulin de taille petit, le meunier et la meunière un beau jour se disputèrent. L'enjeu pourtant semblait léger. Tous deux voulaient un chat. Pourquoi donc batailler si au même instant on veut la même chose? L'ennui fut que chacun voyait l'affaire à sa manière. Le meunier réclamait un prédateur, un félin avisé, qui, par sa seule présence et son habileté, écarterait souris et rats, mangeurs de grains, dévastateurs de sacs. Ce fidèle employé serait récompensé, gardant pour lui toutes ses prises, dont il se nourrirait tant qu'il voudrait, tout à son gré. La meunière, quant à elle, rêvait d'un compagnon qui chaufferait ses pieds, ses genoux, ses menottes, en échange de crème et de petits morceaux qu'elle choisirait pour lui, les mettant de côté. Il serait beau, très doux et caressant, mi-jouet, mi-enfant. « Quoi ?» rugit le meunier. « Gâter un animal, en faire un exigeant ? Moi, je veux un battant qui gagnera sa croûte, tout comme moi, en travaillant. » « Ami, dit la meunière, ne nous querellons plus. La voisine me dit que deux chatons perdus se sont donnés chez elle, que je peux les avoir. Prenez le petit noir, teigneux et plein d'astuces. Il vous rendra service comme vous l'attendez. Laissez-moi la femelle, j'en ferai ma compagne. Elle ne gênera pas le travail du noireau, mais me consolera de mes pieds fatigués quand je me poserai à coudre ou tricoter. » L'affaire ainsi narrée fut bien vite conclue. Au moulin de taille petit, le noireau du meunier, toute griffe en avant, sait tenir à distance la jonc croquefarine, et la petite chatte, la doucette aux yeux bleus, sur les genoux amis de la jolie meunière, ronronne ou sans sommeil entourée de pelotes, couverte de caresses, et fait rire sa maîtresse après son dur labeur. Et depuis, l'harmonie règne chez les meuniers. Moralité. Quand chacun a trouvé son chat, tout va. Le chat, la poule et le caneton. Un renard emporta le canard barbarin dont la canne venait de pondre 6 œufs bruns. Celle-là, sitôt veuve, se mit à dépérir et bientôt décède, sans doute de chagrin. La fermière prend 5 œufs et glisse pour en rire le dernier dans le nid d'une poule esselée qui couve appliquée de faux oves plâtrées. Un félin du quartier, de la poule amoureux, lui propose son aide en aimable voisin. Bonne fille, elle accepte et tolère par jeu qu'il vienne à l'occasion pour cette tâche ardue. Se couchant tout en rond, il réchauffe parfois les œufs de la coquette, sans tire bien ma foi. Puis il rend sa place à la poule revenue. Enfin, le jour arrive où le gros œuf éclot. Notre bébé, canard, poussé par son instinct, cherche l'eau de la mare pour s'y précipiter, rejette cette mère qui veut l'en empêcher. Maman poule, affolée, rattrape son petit. À force coup de bec, vous le ramène au nid. Mais l'enfant se rebelle et retourne à l'étang, sous les yeux inquiets du matou et Bobby. La poulette effarée, d'un bec autoritaire, fait tout ce qu'elle peut pour protéger l'enfant. Plusieurs allers-retours du fils et de sa mère se solde par la mort du jeune impétueux. Craignant qu'il ne se noie, elle tue cet audacieux. L'ami chat hébété s'approche lentement du petit duveteux que la vie a quitté. Le corps inanimé est saisi doucement. Il est porté au nid, tendrement recouché, et sur lui se love le paternel matou. La poule rassurée retourne se nourrir sans voir que son petit, elle l'a fait mourir. Moralité, la bonne volonté souvent ne suffit pas. Le mélange des genres n'est pas toujours heureux. Le chat, le renard et le chercheur de champignons. Un humble instituteur, par un beau mercredi qui de son dur labeur le dispensait, s'en fut dans la forêt, équipé d'un panier, armé d'un long bâton, casquette sur la tête et les pieds bien bottés, chercher les champignons. Quand il fut parvenu dans un endroit secret, de lui tout seul connu, du moins il l'espérait, il arrêta son pas, observant la forêt. Déjà dorée d'automne, murmurant mille bruits, loin d'être monotone, elle est pleine de vie et se montre peuplée de nombreux habitants. Il était arrivé à l'orée d'un grand champ, près d'une clairière qu'il bordait joliment. Il savait y trouver les ceps et les bolets, et même des girolles et des rosées des prés. Mais voici que son œil, toujours très affûté, fut soudain attiré par un lent mouvement. En bordure des grands arbres se profilait une ombre, féline et noire de jais, s'avançant doucement, jusqu'à quitter l'abri des sapins d'un vert sombre. Sans peur, elle se montra, fut bientôt en plein champ. Or, au-delà du pré, à l'entrée de la forêt qui le ceinturait, s'avançait une autre ombre, rousse celle-là. Le chasseur de girolles ne bougeait plus d'un pas, inquiet pour le matou que le renard guettait. Mais le félin serein continuait son chemin, et tous deux, au milieu de ce neutre terrain, se sentant, se léchèrent et se mirent à jouer, en courant et roulant dans les herbes du pré. Puis, d'un commun accord, décidant de chasser, allèrent de trou en trou, se plaçant à l'arrêt. L'un tout immobile, l'autre prêt à sauter sur la folle souris ou sur le rat au pied qui sortit roserait. Notre homme, ensorcelé, ne perdait pas un pli de ce jeu peu banal, de cette alliance amie. Une fois rassasiés de leur belle équipée, chacun des deux alliés partit de son côté dans la vaste forêt. Pour la première fois, le gentil promeneur revint, le panier vide, mais le sourire au cœur. Le soir était tombé, trop tard pour la cueillette. Il revoyait la scène dans son esprit en fête, se promettant d'en dire aux élèves et Bobby tant de monts et merveilles le lendemain, jeudi. La nuit porte conseil. Dès lors, à son réveil, il repensa l'affaire, décidant de se taire et de garder pour lui ce qu'il vécut la veille. Si d'un si beau secret, un jour on est porteur, sachons bien le garder, car gare aux prédateurs. Mieux vaut ne pas risquer que deux coups de fusil ne brisent à tout jamais la vie de tels amis. Vous venez d'entendre six fables de Martine Sombrin-Ténière, extraites de « Histoire à plumes, à poils et à piquants ». Vous pouvez vous procurer ces différents livres au point presse du Petit Leclerc du Clos Chassin à Périgueux et sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Surtout, n'hésitez pas. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.